RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Alors on va parler dans un instant confinement sur RMC et le fait que ça peut avoir des répercussions sur le plan psychologique avec Christian et notre invité. Mais auparavant, tiens, dernière petite question concernant le thé, Christian. C'est Eric qui nous dit est-ce que le sachet en papier du thé est conseillé? Comment en fait faire infuser son thé? C'est vrai qu'il y a les petits sachets, la pratique, hein, on met de l'eau et puis paf. Ou alors il y a aussi ces petites passoires, etc. Qu'est-ce que vous conseillez?
Ces sachets de thé sont comme les financiers de ce monde, sans aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ces sachets de thé, il y a de la poudre de thé dedans, ça vous colore l'eau, mais il y a absolument, il y a très peu de principes actifs positifs dans ces sachets de
donc,
thé.
Donc, dans la mesure du possible, préférons oui. des oui. thés achetés en vrac.
Soyons professionnels, achetez des plantes, achetez un thé que vous aimez. Surtout, il faut que vous aimiez la flaveur, le goût. C'est un plaisir, c'est comme un grand vin, le thé.
C'est comme le café, d'ailleurs.
C'est comme le café. Donc, il faut vraiment que vous fassiez plaisir avec ce thé. Et donc, je dirais que le thé, c'est de 8h du matin à 17h.
D'accord.
3/4 de litre par jour avec une vraie plante. Et vous évitez ces sachets qui n'ont vraiment aucun intérêt. C'est de la finance.
Et puis, comme on rentre dans le confinement, on aura le temps de choisir son thé. Là,
absolument.
Hein, c'est ça qui est bien. Jean-Philippe Sanchez est avec nous. Vous avez décidé
oui,
de
très
de
grand Jean-Philippe Sanchez. C'est un immense honneur et un plaisir.
Vous êtes psychologue, Jean-Philippe Sanchez. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on vous entend pas, mais je pense que ça va marcher. Jean-Philippe Sanchez est avec nous. Oui. Bonjour.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Oui, parfait.
Alors, je me présente, Jean-Philippe Sanchez, donc je suis psychologue, j'exerce actuellement une activité libérale à Vincennes dans le 94 et à Aubonne dans le 95. Je travaillais avant dans l'APHP, dans la fonction publique, dans un service de psychiatrie et d'addictologie, donc à Créteil.
Alors, Jean-Philippe Sanchez, aujourd'hui, quel est l'état des lieux, très très brièvement, des moyens psychologiques, des moyens humains, des moyens médicaux, très brièvement, avant de parler d'un point essentiel pour lequel vous êtes là, c'est au fond, quelles sont les solutions qu'on doit apporter à nos chers citoyens confinés pour éviter de sombrer dans le désarroi, voire dans la dépression. Donc on passera aux solutions pratiques dans quelques secondes, mais avant, quel est l'état des lieux? Parce que l'état est catastrophique. Alors, je suis dépité par la situation.
Alors en effet, les chiffres comme le cite l'OMS, c'est 450 millions de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques dans le monde et une personne sur cinq en France, pour ne parler que des diagnostics qui sont posés officiellement. L'OMS cite aussi qu'il y a donc la moitié des cas des troubles mentaux qui débutent avant l'âge de 14 ans et que 20% des enfants et des adolescents dans le monde sont atteints de troubles similaires, quelle que soit la culture. Alors 30% des pays, malheureusement, n'ont pas de politique de santé mentale. Plus de 30% n'ont pas de programme spécifique. Et près de 25% n'ont pas de législation. Ce qui fait des pathologies psychiques, le quatrième fardeau global de morbidité et la dépression sera bientôt en deuxième position, malheureusement.
Oui, c'est l'un des maux du siècle, on va dire, la dépression, hein, malheureusement. Jean-Philippe Sanchez, un mot sur cette période. On repart en confinement. J'imagine que c'est une période sensible qui fragilise beaucoup de gens, évidemment.
Bien sûr, comme je viens de les chiffres le montrent, à la base, c'était pas, il y avait déjà pas mal de problèmes, et avec ce deuxième confinement, et il y avait déjà eu un premier, ça vient rajouter une couche à des problèmes qui étaient déjà existants en fait. Il y a des études qui ont montré que ce premier confinement ont engendré chez des personnes qui avaient des antécédents psychiatriques qui peuvent être très bien guéris aujourd'hui, eh bien, il persiste une anxiété et une colère 4 à 6 mois après le confinement. Donc, ça n'a pas de conséquences, ce confinement.
Alors, évidemment, quels sont finalement, alors on a compris que les ministères passés n'ont donné aucun moyen à la psychiatrie et à la médecine psychiatrique. On pourrait rester des heures sur le sujet, mais c'est pas l'objet du jour. L'objet, c'est que peut-on conseiller à nos auditeurs pour être dynamique et pour ne pas sombrer? C'est quoi les éléments concrets qu'on pourrait leur conseiller?
Alors, le premier point, j'insiste dessus, ça peut paraître simple, mais c'est demander de l'aide. Il ne faut pas souffrir seul. Il faut faire Donc avec les ressources internes que l'on a, il y a des stratégies pour autoréguler ses émotions, son stress, la respiration, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. C'est des exercices simples.
Jean-Philippe, j'ai envie de vous poser une question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent aussi se la poser. À quel moment on doit se dire qu'il faut appeler quelqu'un?
Alors, déjà, si on se pose la question, c'est probablement qu'il faut passer à l'action. Après, on peut toujours demander de l'aide à ses amis, à ses proches. Et j'ai envie de dire, c'est comme quand on va à l'hôpital, on désigne une personne de confiance. Pourquoi pas désigner une personne de confiance, là, pendant ce confinement, qui est la personne à qui on peut tout dire. Et donc, ben, on lui fait état de la situation. Et elle pourra très bien nous conseiller. Et sinon, en fait, tout simplement, appeler son médecin traitant ou d'autres professionnels de santé si on est suivi par d'autres personnes, voire demander à quelqu'un, un psychologue, psychiatre, l'appeler, voir ce qu'il peut nous conseiller.
Alors, évidemment, là, c'est le médecin qui parle, le médecin, je dirais, généraliste, interniste. J'aimerais vous préciser ceci, mesdames et messieurs. C'est que dans un couple, quand l'autre ne va pas bien, eh bien, c'est la personne du couple qui va mieux qui doit passer en alerte. Et on doit véritablement compter sur l'autre pour être aidé. Le vrai problème, alors ça c'est bien quand on est en couple, quand on est accompagné, mais le vrai problème, ce sont pour les personnes qui sont en solitude. Alors évidemment, les personnes âgées, on a un manque de moyens terrible, comme je viens de vous le dire. Les personnes âgées seules peuvent sombrer terriblement vite. Le problème pour les personnes âgées en plus, c'est que la thérapeutique ne fonctionne pas parce que elle perturbe considérablement les fonctions végétatives et les personnes âgées peuvent sombrer, je dirais malheureusement définitivement à cause de cela. Je parle pour les personnes plus jeunes qui sont seules et c'est là l'intérêt de cette émission en ce moment, c'est de se dire, vous n'êtes pas bien, s'il vous plaît, consultez parce que le dialogue, l'interactivité peut suffire. Alors, parfois il faut très peu de choses, hein. Vous allez me dire, vous êtes d'accord avec moi, c'est de l'activité physique, c'est sortir, c'est dialoguer, c'est écouter de la musique. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? C'est quoi votre vision?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, hein, surtout qu'en plus, maintenant, avec la téléconsultation, on a un accès rapide et facilité avec les différents professionnels. Donc, ça peut aider les personnes qui auraient du mal à consulter quelqu'un parce qu'elles ont de la timidité ou de l'anxiété. Et par rapport à tout le reste, je suis assez d'accord, hein. Ce sont toutes ces stratégies d'hygiène de vie, en fait, sont très importantes. Et en fonction des spécificités de chacun, je dirais qu'on peut très bien essayer d'organiser tout ça, planifier, c'est un peu le maître mot, hein. Structurer ses journées, avoir des activités variées, s'organiser, planifier, prendre le temps, maintenant qu'il y a un peu plus de temps, pour s'asseoir, prendre une feuille, noter ce qu'on veut faire, nos projets, et s'organiser dans le temps pour pouvoir arriver à faire face à tout dans le délai imparti, on va dire.
Juste une petite question technique, Jean-Philippe. Est-ce que vous pouvez faire des consultations en visio? Et quel est le... Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est aussi bien qu'une consultation, on va dire, physique?
Alors, malheureusement, en effet, je pourrais pas dire que c'est 100% comme une consultation en physique, mais je dirais que ça a quand même une grande efficacité. Pour avoir fait des consultations pendant que j'étais toujours au sein de la PHP à l'hôpital et des consultations même psychothérapeutiques de type EMDR où on fait normalement des mouvements oculaires, on peut trouver d'autres stratégies et on a réussi à maintenir nos séances psychothérapeutiques sur des problèmes importants, profonds, et ça a pu continuer et ça s'est très bien passé et ça continue à être efficace malgré cette distance qui peut être celle qui est liée au numérique malheureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit un obstacle à la prise de rendez-vous et au fait de continuer les prises en charge que l'on a déjà mises en place.
D'accord, donc les consultations se poursuivent, hein, Jean-Philippe, on est d'accord.
Elles se poursuivent, hein. Bien sûr, et même en physique, hein, parce qu'il y a la distanciation sociale, il y a des masques, on aère, les mêmes consignes qu'on applique à l'hôpital, c'est les mêmes consignes que j'applique dans mon cabinet, aérer entre les patients, porter un masque, avoir du gel hydroalcoolique, la distanciation, toutes les règles qui sont appliquées un petit peu partout, ou qui doivent être appliquées un peu partout.
Très bien, merci pour ces conseils Jean-Philippe
Sanchez. Merci
infiniment.
Merci.
Il est 8h40, on va revenir dans un instant. Alain sera avec nous, il aimerait bien avoir votre avis concernant les produits de la ruche. Christian, pollen, miel, etc. Et puis, nous aurons avec nous le plaisir de recevoir un mathématicien, Pierre-Louis Lyons, qui est lauréat de la médaille Fields. Et qui va peut-être nous faire travailler les méninges pendant ce confinement, Christian, c'est
oui,
ça?
Oui, ça sera nécessaire, surtout encourager les parents.
Est-ce que vous faites du sudoku?
Pour voir les mathématiques. Non, je ne fais pas de ce jeu. Non, je,
le sudoku?
Je ne joue pas. J'adore les échecs.
Ah,
donc je
bien.
Joue aux échecs et j'apprends à mon petit Vittorio les échecs. Il est d'ailleurs très très bien, Vittorio.
Il va bientôt vous battre.
Oui, ça ne sera pas très difficile.
Hein. Allez, à tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Le retour de ce week-end des experts, la forme et la santé, on est là jusqu'à 9h avec Christian Riquet. Et puis juste après, ce sera Raphaël Grabli qui nous rejoindra. Christian, dans un instant, nous allons recevoir un médaillé Fields.
Oui, un très grand monsieur.
Qui est l'équivalent, en fait, du prix Nobel.
Du prix Nobel.
C'est parce que le prix Nobel mathématique n'existe pas. Hein,
oui,
c'est la médaille Fields.
Monsieur Nobel n'a pas
gagné. Merci à nos auditeurs de nous l'avoir rappelé.
Et donc, Fields est l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques.
Alors vous vous dites
et ce monsieur a d'ailleurs été le père spirituel de monsieur Villani d'ailleurs.
Alors pourquoi un prix Nobel de mathématiques dans ce rendez-vous santé, Christian?
Parce qu'il faut absolument armer moralement nos parents d'élèves, papa, maman, grands-parents sur la vision. Faites des jeux. Faites des mathématiques avec vos enfants. Les programmes de mathématiques de l'éducation nationale ont largement évolué. Et là, c'est quelqu'un de compétent qui vous parle. Et concrètement, il faut absolument, par le jeu, expliquer que les mathématiques existent partout. Mais notre auditeur, monsieur Pierre Lyon-Louis, va nous expliquer tout cela.
On le retrouve dans un instant, mais auparavant, place à vos questions santé, forme, et nous avons Alain au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain. Alain du Lot-et-Garonne.
Oui, tout à fait. Bonjour docteur. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oui, je voulais poser cette question-là. Est-ce que les produits de la ruche, le miel, le pollen, sont vraiment efficaces comme l'on voit dans beaucoup d'ouvrages, notamment dans le livre de M. Percy Dusserre, qui est à côté de chez moi d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
Eh bien, écoutez.
Alors, juste une question. Vous parlez de quel bienfait, Alain, alors, spécifiquement?
Sur l'immunité, visiblement. Sur l'immunité, le pollen est excellent. Mais je voulais avoir l'avis du docteur.
Soyons très précis. D'abord, les ruches, ça permet de parler des abeilles. Les abeilles, il faudrait avoir que chaque citoyen puisse avoir une ruche. Ça serait mon rêve. Cela dit, c'est un métier, donc il faut vraiment aussi expliquer que les ruches doivent accompagner les citoyens comme un jardin peut accompagner un citoyen ou une famille. Et donc, le produit de la ruche donne finalement du miel, qui est un sucre qui concrètement est assimilé et provoque moins de sécrétion d'insuline et contient des phénols qui sont bons pour la santé. Alors, là, c'est clair, ça a été prouvé. Il ne contient pas de vitamines, le miel ne contient pas de vitamines, il contient finalement une capacité à promouvoir et avoir des antioxydants. Ça a un intérêt. Et surtout, le miel apporte des flaveurs, des odeurs, des goûts dans un yaourt. Alors, par exemple, plutôt que de mettre du sucre blanc dans un yaourt, nature, eh bien, ou dans un fromage blanc, ou là où vous voulez.
Ou dans du café, par exemple.
Voilà. Une pincée de miel peut changer le plaisir, et ça a du sens. Et donc, pour répondre précisément à votre question, ça apporte du phénol, et le phénol est très bon pour la santé, et sur le point particulier
de l'immunité
et surtout améliore la flore intestinale, parce que ça n'apporte pas un effet immédiat sur l'immunité, ça apporte un effet immédiat sur la flore intestinale, ça profite qui proliférant d'une façon cohérente permet finalement d'asseoir une meilleure immunité, car n'oubliez pas François que nous avons fait plusieurs émissions sur le biotope, et dans l'intestin il y a une flore intestinale, ça profite, c'est pour ça qu'il faut manger végétal aussi et en grande quantité, et le fait d'apporter du végétal dans son alimentation apporte une flore bactérienne remarquable, et le miel apporte, je dirais, cet élément complémentaire à la flore intestinale.